Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Première fin de semaine de décembre 2024. Ici Alex Bayergeon et bienvenue au deuxième service du Réchaud. Bonne fin d'avant-midi sur les ondes de CFAC 88.3 à Sherbrooke et de Chiz 94.3 à Québec. Vos radios universitaires préférées. Et radio préférée, c'est le cas de le dire, puisque c'était les sondages radio à travers la province. Et CFAC, toujours radio universitaire dans la ville de Sherbrooke, numéro 1. De même qu'à Québec, chez radio universitaire numéro 1 sur le grand territoire de la ville de Québec. Je fais des farces, parce que toutes les radios sont toujours numéro 1 dans la catégorie qu'ils trouvent, pour la catégorie d'âge qu'ils veulent, avec le nombre d'auditeurs qu'ils le veulent aussi. Toujours de facile de se trouver un numéro 1 quelque part. Et nous, en tant que radio universitaire, on performe toujours. Alors, s'il y en a un qui a un peu moins performé dans les sondages cette semaine, c'est bien sûr le premier ministre lui-même, pas seulement la CAQ, mais le premier ministre lui-même. Puisqu'en début de semaine, un nouveau sondage Palace disait que dans toutes les catégories d'âge confondues, on souhaitait le départ de François Legault. 53% des répondants ont dit que François Legault devrait laisser sa place d'ici 2026. Près du tiers disent qu'il devrait rester et le dernier 15% se dit incertain. Combiné, c'est les deux tiers des Québécois qui se disent très insatisfaits. À 39%. Additionné des plutôt insatisfaits à 24%. Et ce que les sondeurs disaient à propos de cette donnée-là particulièrement, c'est qu'habituellement, les gens vont cocher plutôt insatisfait ou plutôt satisfait. Mais très rarement ou plus rarement, le très insatisfait. Donc, pour qu'en ce moment, le très insatisfait soit l'option qui domine dans les deux options négatives, c'est aussi parlant. Mais tout comme Emmanuel Macron, qui a perdu son gouvernement cette semaine, s'est adressé à la nation française en disant « Vous m'avez élu pour réaliser un mandat de tant d'années, je vais faire toutes ces années. » Eh bien, François Legault s'engage à rester là jusqu'en 2026. Mais si la tendance se maintient, François Legault pourrait passer sous la barre des 5 députés assurés de retourner à l'Assemblée nationale. Sur, on le rappelle, présentement, 87 députés. qu'ils étaient 90. Fitzgibbon s'est enfui. Le député d'Arthabasca va faire le saut au fédéral. Et Youri Chassin est maintenant indépendant. Ça regarde mal. Mais de toute façon, est-ce que de remplacer François Legault serait la solution pour amoindrir la défaite caquiste? Il va falloir se lever de bonne heure. Il n'y a personne en ce moment qui prend le lead de la CAQ et qui est assuré, ou en tout cas, qui serait assez digne de confiance pour que le vote ne soit pas tant que ça à la baisse. Au sens où Simon-Jolin Barrette, Geneviève Guilbeault, Bernard Drainville, Christian Dubé ne peuvent pas... Ben, Christian Dubé, surtout pas. Là, il veut pas devenir premier ministre, ça, c'est sûr. Mais tu sais, les vrais pressentis, à la limite François Bonnardel, tu sais, les vrais pressentis qui pourraient succéder à François Legault n'ont pas de chance. L'opinion n'est pas en la faveur des députés de la CAQ, qui n'a pas de renversement pour l'instant possible et qui ferait en sorte que la CAQ resterait au pouvoir. Seulement 20 % des sondés se disent satisfaits du travail du premier ministre et un très, très maigre 5 % de très satisfaits. Donc, on a littéralement les deux tiers qui se disent insatisfaits, voire très insatisfaits, et à peine le quart qui sont contents. Le reste sont à « ne veut pas répondre », probablement. Parmi les noms que j'ai cités, j'ai oublié Sonia Lebel. Je ne pensais pas qu'elle avait une réelle chance, mais semble-t-il qu'elle aurait plus de chance que Bernard Drainville. À la question « si François Legault devait démissionner comme chef, qui serait le meilleur choix? » Seulement 15 % disent Geneviève Guilbeault. Christian Dubé, 10 %, ça me surprend. Simon Jolin est à 9, ex-aequo avec Sonia à 9, et Bernard est à peine à 6. Le quart disent aucun de ses choix, et 22 % disent ne pas être certain ou préfèrent ne pas répondre. Évidemment, Simon Jolin Barrette a été appelé pour défendre François Legault, en disant que c'est le plus compétent pour occuper le poste de premier ministre. Ça, c'est de la partisanerie, on l'appelle ça comme ça. Parce qu'entre autres, les coupures qui auront lieu dans les prochaines semaines font mal au gouvernement. En dernier, c'est les classes de francisation. Parce que l'important au Québec pour les nouveaux arrivants, c'est d'apprendre le français, comme le disait le premier ministre Legault lui-même, Jean-François Roberge à une certaine époque, et maintenant ministre de l'immigration, lol. Mais il coupe dans ces mêmes classes de francisation-là, qui sont obligatoires pour les nouveaux arrivants d'apprendre le français. Qui est obligatoire pour les nouveaux arrivants d'apprendre le français? Mais les classes ferment. On a donné un très, très petit 10 millions hier, jeudi. On a trouvé dans les raccoins du divan un petit 10 millions pour rouvrir certaines classes de francisation. Et semblerait-il que pour la région de l'Estrie, de ce 10 millions-là, il y aurait 0 $. Ce serait comme un 10 millions réparti... possiblement, là on n'a pas tout à fait les détails, mais ça c'est possiblement dans les grands centres et Sherbrooke en serait exclu. Donc, la priorité pour le gouvernement Legault, c'est de franciser tous les immigrants et de valoriser la profession d'enseignement. Ils ont coupé les classes, les professeurs n'ont plus de job et les immigrants n'apprendront pas la langue. Parce que Duolingo a des limites. Ça ne regarde pas bien. Et ce n'est pas de toute façon la première décision de dépense totalement injustifiée. Ne serait-ce que le retour d'impôt a coûté 2 milliards. Le nouveau système de santé, Santé Québec, doit couper 1 milliard tout en préservant, on ne sait pas trop comment, les services sans que ça soit pour s'en aller chez le diable. Et justement, là-dessus, on a fait un petit résumé de toutes ces dépenses un peu folles par François Legault dans les dernières années, où on a un autre vault à 710 millions qui va possiblement fermer. La maison mère, en tout cas. Ben, en fait, la maison mère ferme, pas mal que le reste va fermer, mais bon. C'est des détails, semble-t-il, que la filière canadienne va bien, mais si la maison mère ferme en Suède, ça va être terminé. Suède ou Norvège, je ne me rappelle jamais. Saclic, le fiasco de Saclic, 612 millions. Les études sur le troisième lien pour dire qu'on va le faire pareil, même si toutes les études disent que ça ne marchera pas, 69 millions. Le panier bleu qui a à peine duré 2 ans et demi et qui est déjà fermé, en plus du départ de Fitzgibbon, 22 millions. Et les Kings de Los Angeles, 7 millions. Additionnés ensemble, 1,5 milliard et plus de dépenses complètement ridicules. Mais il ne reste plus d'argent pour les classes de francisation et pour que le système de santé ne soit pas obligé de fermer des salles d'opération. Donc voilà. Ça pourrait avoir l'air d'être que des mauvaises nouvelles, mais un peu tout le monde, de toute façon, n'est pas au top non plus. Donc, Legault devrait démissionner. C'est littéralement ce qu'on peut en lire et en déduire de cette nouvelle-là. Au point que si dans les... Justement, comme je le disais, si dans les circonscriptions, c'est serré un petit peu, la CAQ pourrait tomber à seulement 5 députés. Ce qui, là-dessus, pourrait peut-être être profitable pour Éric Duhaime et le Parti conservateur, qui, lui, pourrait aller chercher 6 députés. Et ça, c'est particulier. Parce que les deux bosses, certainement, reviendra au Parti conservateur. Dans la région de la ville de Québec, on se split les circonscriptions caquistes entre le PQ et les conservateurs, mais par de faibles avances. Donc, s'il y a un vote massif contre, ça les bloque. Mais en ce moment, la CAQ survivrait avec seulement 5 députés, un peu répartis partout, mais sauf erreur, c'est la Rive-Nord de Montréal, Laurentides-Lanaudière, qui conserverait ces sièges-là. Possiblement François Bonnardel dans Granby, justement. Mais sinon, tout le reste des députés conservateurs se transfère au Parti québécois et au Parti libéral. Mais comme ce n'est pas proportionnel, puisqu'au pourcentage, la CAQ obtiendrait tout de même 20 % des voix, repartirait avec seulement 5 députés, et le Parti conservateur à 13 % lui aurait un député supplémentaire, tout en étant 2 de moins que Québec solidaire, qui, eux, sont à 12 %. 75 péquistes, donc un gouvernement majoritaire. 31 libéraux, on augmente un tout petit peu. On tombe à 8, Québec solidaire. 6 possibles conservateurs, minimum 1. et c'est pas nécessairement Éric Duhaime, c'est vraiment Beauce que ça va jouer pour l'entrée du Parti conservateur à l'Assemblée nationale. Et la CAQ, qui peut faire en point médian 5 députés, mais qui pourrait perdre l'entièreté de sa députation, ou si gagnait toutes les circonscriptions serrées, se maintiendrait à 15. Mais le mieux qu'ils peuvent faire, c'est 5 en descendant. Donc, si les sondages continuent à s'accumuler dans le négatif pour François Legault et la CAQ, il pourrait même se voir être rayé de la carte politique. Ça n'arrivera pas, bien sûr. Il va tout de même subsister un ou deux députés de la Coalition Avenir Québec. Ils ont quand même 26 % d'appui dans le reste du Québec, en dehors de la région de Québec et de la région de Montréal. Mais le PQ est quand même à 41 % Dans les villes, même chose. Montréal-Québec, 32-33. Et la CAQ est ex aequo à 18. Le Parti libéral est à 26 à Montréal, mais seulement 8 à Québec. C'est le 25 des conservateurs qui fait mal à la CAQ dans la région de Québec. Donc, c'est pas gagné d'avance. En fait, non, c'est pas mal perdu. On peut déjà le dire. C'est pas mal perdu pour François Legault. Mais à quel point ça va être perdu, ce sera surtout ça qui sera à surveiller. Parce que pour l'instant, si réellement toutes les avances de la CAQ étaient perdues et qu'on s'enlignait pour que ça soit réparti vraiment entre libéral, PQ et conservateur, la CAQ pourrait disparaître à la prochaine élection. Zéro députation pour le gouvernement majoritaire le plus élevé dans l'histoire récente de la province. Il y en a déjà eu des grosses députations, mais 90 députés à l'élection, ça faisait extrêmement longtemps que ça n'avait pas été vu. Ils pourraient passer de 90 à zéro. Ce serait la plus grande dégelée dans ce cas-ci de l'histoire de la province. Mais même 90 à 5, c'est une énorme dégelée en partant. Voilà pour ça. Mais encore une fois, ce sont des sondages, ce sont des idées, un cliché, comme plusieurs le disent. Évidemment, à la CAQ, on n'aime pas commenter les sondages, surtout dans cette période-ci. Mais ça donne quand même un indicateur que les gens ne sont pas du bord de la CAQ, mais vraiment pas. Courte pause, au retour, on sera 100% cinéma puisque j'ai trois bandes annonces à vous faire entendre et trois critiques de films. Ça a été productif au cinéma cette semaine. Vous écoutez le deuxième service sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. Un petit intermède de musical de Bon Enfant, Enfant de l'air sur les ondes de CFAQ 80.3. Tiré du nouvel album, demande spéciale. Ils sont en tournée partout. Donc j'ai vu le show cette semaine. C'était très bon. Fait qu'allez voir ça, Bon Enfant, partout. En province. Bande annonce tout de suite. On débute voilà, ce marathon cinématographique avec le film québécois qui est à l'affiche présentement. Un des films québécois qui est à l'affiche présentement, Berger. Bande annonce tout de suite. Voilà.
Je suis dans le sud de la France. Je suis désolé, j'ai pas dit à tout le monde que je partais. Je vais pas rentrer. Mais je m'excuse quand même de vous laisser tomber. Hein?
Je suis disponible maintenant.
Tu viens de la ville pour jouer au berger?
Oui, je suis de la ville, mais en fait, je suis du Québec. Je suis québécois.
Ah, ben voilà. C'est pour ça que je comprenais que dalle.
C'est pas un 3 étoiles, mais enfin.
Ah non, faut pas aimer les moutons. C'est toi le chef des moutons. Si tu les aimes, ils vont faire n'importe quoi.
J'ai rejeté ma vie d'avant, puis maintenant je suis berger.
C'est une blague?
C'est un métier dur.
Ah, mais c'est un couple qu'il me faut. Le troupeau doit transhumer à pied dans les gorges jusqu'aux Alpes.
On doit vous avouer que j'ai aucune expérience dans la montagne.
Il y a quoi la montagne qui apprend à la montagne?
Un troupeau, tu contrôles la tête, la queue suit tout le temps.
C'est de la sociologie.
Oui, exact.
26 béliers pour 800 brebis en chaleur. On aime ça rock'n'roll.
Fin de l'été, tu vas avoir des mollets comme des arbres. on est des nomades. On suit l'herbe. Elles se souviennent. D'une année sur l'autre, elles reconnaissent leur alpage.
Le monde doit s'écrouler. Je préfère être berger et ne pas y avoir trop participé.
T'es un romantique, toi.
Voilà, réalisation de Sophie Deraspe qui nous avait donné notamment Antigone, Antigone que j'avais beaucoup aimé au passage. Aspirant écrivain, Mathias troque sa vie montréalaise de jeune publicitaire pour celle de berger en Provence. Le chemin vers la quiétude pastorale, tant désiré, toutefois jonché de durs labeurs. La visite d'Élise, une fonctionnaire ayant cavalièrement quitté son boulot, elle aussi, donne une nouvelle direction à la quête de Mathias. Ensemble, ils s'engagent dans une transhumance. Traversés par les épreuves de la montagne avec un troupeau à leur charge, ils vont se façonner une vie nouvelle. Librement inspiré du roman « D'où viens-tu, berger » de Mathias Lefebure. Donc, c'est très contemplatif. Il y a des beaux décors. On est dans la montagne française. C'est joli. Il y a des prés. Il y a des moutons. Il y a beaucoup de choses. C'est ça. C'est très beau visuellement. C'est très joli. On a les deux types de façons d'être berger. On l'entend. Hein? Il y a celui qui dit « faut haïr les moutons » et tu as l'autre madame qui dit « non, non, on va avoir du fun, ça va être plaisant ». Fait que c'est les deux méthodes auxquelles Mathias sera confronté. Disons qu'il y en a une qui marche beaucoup moins que l'autre. Mais voilà, c'est contemplatif, on est là pour les décors. L'histoire en tant que telle, ben, tu sais, c'est un été. Fait que c'est assez... pas que c'est répétitif, mais tu sais, on comprend rapidement le principe. Puis bon, justement, la première fille qui croise va lâcher sa job pour lui, gars qu'elle connaît pas de Montréal, qui débarque parce qu'il veut un permis de travail, mais qui peut pas avoir de permis de travail. Fait en tant que fonctionnaire, elle lui donne le conseil de essayer mieux que ça. Mais en tout cas, fait que tu sais. En tant que tel, c'est pas mauvais. C'est intéressant parce que, justement, le film est... C'est-tu lui qui est le moins long du lot? En tout cas, non, il est 2 heures quand même. Mais ça passe pas... Ça, on sent pas tout à fait le 2 heures non plus. Quoique, bon, c'est ça, quand on fait le pèlerinage des moutons jusqu'à la montagne, t'sais, on met l'emphase là-dessus, bien sûr, mais... Je trouvais qu'il manquait peut-être un peu de présentation. À part qu'on sait que ce gars-là, il haït son patron puis qu'il a juste lâché sa job à Montréal, lâché ses amis, sa famille, etc. pour juste sacrer son camp en France. Je l'aurais pris, cette intro-là. J'aurais voulu, quitte à couper un peu dans dans la ferme un peu macabre puis couper dans la marche à la montagne, j'aurais... pris ce début-là à Montréal. Tu sais, juste mettre l'emphase sur lui qui n'aime pas sa job, qui est sur le bord de faire une crise cardiaque, tu sais, qui est dans le rythme effréné de Montréal, à la limite caster son patron désagréable qui gueule dessus, plus que juste lui assis dans sa chambre en Provence qui envoie un message texte pour dire « Je vous quitte, bande de cons, je suis maintenant en France. » Tu sais, j'aurais aimé ce bout-là, tu sais, justement, qu'on se mette vraiment dans la peau de ce personnage-là pour comprendre pourquoi il va se rendre jusque-là. Parce qu'il fait juste arriver en France, on l'entend un peu dans la bande-annonce, il va voir un groupe d'entrepreneurs bergers, puis c'est comme, ah oui, c'est vrai, il y a l'équipe de bergers un peu plus professionnelle, là, c'est vrai, qui sont un peu plus rodés, qui fait trois fermes, entre guillemets. Fait que tu sais, il fait juste arriver devant eux autres. Bonjour, je voudrais être un berger. Merci. Fait que tu sais, ça aussi, c'est un peu étrange que qu'il y ait des Français là-dedans qui sont comme ah ben oui, je vais te donner ta chance, pas de problème. Fait que tu sais, c'est tout. Tu sais, il manquait ce petit quelque chose-là, j'ai l'impression, pour juste comme vivre le bout effréné, t'sais, comprendre pourquoi il veut s'en aller, pour que rendu en France, là, on voit le contraste, t'sais, là, on comprenne où il est rendu, c'est calme, c'est tranquille, c'est une autre vie, complètement. T'sais, il manquait peut-être cette information-là pour comme... Tant qu'à moi, un peu mieux embarqué dans l'histoire, même si c'est déjà 2 heures de temps, puis on finit par comprendre. Il y a une recherche de moutons aussi qui est extrêmement longue, mais en même temps, c'est normal, c'est dans une montagne. Mais tu sais, il y a des petits trucs qui méritent d'être serrés. Il y a une mise en contexte que j'aurais fait complètement différent. Mais sinon, en tant que tel, ben, je sais pas si on est dans les Alpes françaises, mais en tout cas, on est dans les montagnes françaises, certains. Puis c'est ça, ça peut pas être plus beau lieu de tournage que ça, c'est certain. Mais voilà, premier grand rôle au cinéma pour Félix-Antoine Duval aussi, qu'on a surtout vu dans des séries télé, genre L'Échappée puis des affaires de même. Il y avait eu l'étrange vie de Jonathan quelque chose à Vrac, super écran aussi. Mais tu sais, premier vrai gros rôle au cinéma qui défend correctement, là, c'est un... Un gars de Montréal qui arrive en France. Que, il n'est pas aimable, puis il n'est pas désagréable non plus. Là, c'est le Québécois transporté en France qui ne comprend pas les us et coutumes de certaines choses, puis tout ça. Fait que, non, c'est sympathique. C'est ça, visuellement, c'est super beau. 2 heures, c'est un petit peu long, mais toujours pour encourager le cinéma d'ici, le cinéma québécois, ça vaut la peine. Puis justement, cette proposition-là à l'extérieur, comme ça, dans les grands pâturages français, ne serait-ce que pour ça, c'est intéressant. Donc, à voir certainement sur grand écran, mais au moins pour donner ce coup de pouce au cinéma québécois qui en a toujours bien besoin. Surtout avec 2 gros blockbusters, ou en tout cas qui essayent d'être blockbusters, comme Wicked et Gladiateur 2, ce sera en deuxième partie d'émission, ici même, sur les ondes de CFAQ 88.3 et de Chiz 94.3. Beat Sexu, qu'on vient d'entendre en musique sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. Correction pour Félix-Antoine Duval, qui a mon âge, je suis 2 semaines plus vieux que lui. La malédiction de Jonathan Plourde, c'est le nom de l'émission qui était sur les ondes de Nouveau Vrac. Série Plus, non, Super Écran, plutôt, pour Sarah, qui est sur Netflix présentement et qui était dans Fragments de, Michel-Marc Bouchard, mais c'est plutôt avec ce monsieur qui écrit tellement bien de bonnes séries avec, voyons, comment il s'appelle? Je retrouve son nom à lui. Serge Boucher, mon Dieu, Serge Boucher à Radio-Canada qui fait d'excellentes séries à une saison. Si on a beaucoup de tendance à vouloir faire plusieurs saisons. Fragment était particulièrement bon. Il jouait le fils dépressif de Luc Guérin dans cette série-là. Deuxième bande-annonce qui, me tentait pas au début. Les commentaires sont bons et étant donné qu'on est rendu la semaine 2 ou semaine 3, je trouvais ça drôle d'être déjà dans une petite salle de la maison du cinéma pour voir ce film-là. Wicked, bande-annonce tout de suite.
Mes camarades Osiens, la méchante sorcière de l'Ouest est morte! Laissez-moi vous raconter toute l'histoire. Nos chemins se sont croisés à l'école. Ah ! Tu es verte.
On dirait bien.
Ils avaient leurs secrets.
Absolument remarquable.
Pourquoi est-ce que tu causes toujours des problèmes?
Je ne cause pas de problèmes, j'en suis un. Certains d'entre nous sont différents.
Écoute-moi, tu peux absolument tout faire.
Je sais.
Suivez la route. vous mènera directement à moi.
Bonjour.
La meilleure façon de rassembler les gens, c'est de leur offrir un véritable ennemi.
Cette méchante sorcière.
N'aie pas peur.
C'est le magicien qui devra avoir peur de moi.
Alors, c'est musical, sachez-le, parce qu'il y a des gens qui étaient surpris que ce soit une comédie musicale quand ils sont allés voir Wicked au cinéma. Oui, oui, les gens ne checkent pas leurs affaires avant d'y aller, surprise. Donc, Wicked qui est juste avant. Non, parce qu'on apprend quand le film commence que c'est la première partie de ce film-là. Oui, oui, 2h40 de première partie d'une deuxième partie qui viendra un moment donné. Est-ce que c'est justifié de le faire en deux temps? Évidemment que non. C'est un peu comme Hunger Games 3, partie 1, partie 2, ou Harry Potter 7, partie 1, partie 2. On veut étirer la sauce le plus possible. Fait qu'on décide de faire ça en deux parties. Et honnêtement, le premier film termine, il pourrait ne jamais y avoir de deuxième partie, ça serait parfait de même. Mais non, on est un peu trop avare de vouloir faire de l'argent du côté de Universal, j'ai l'impression. Donc, Wicked, première partie, considérée comme une des comédies musicales les plus aimées et les plus jouées sur scène pendant deux décennies, Wicked fait son entrée sur le grand écran. L'histoire inédite des sorcières d'Oz, avec Cynthia Erivo qui reprend Elphaba, la méchante sorcière de l'Ouest qui deviendra la méchante sorcière de l'Ouest, et Ariana Grande qui joue la très désagréable Glinda, la gentille fée dans normalement Le Magicien d'Oz. Ça se veut être un antépisode au film de 1939. Je le dis de mémoire, mais j'ai comme un petit doute en même temps. À preuve, il y a un beau clin d'œil, ultra rapide qui est fait au premier film, 1939, si je l'ai bien dit comme ça. C'est ça, il y a un clin d'œil quand même qui est fait aux personnages principaux de la petite fille, le robot, l'épouvantail et le lion, mais reste quand même qu'on débute le film à la fin du film de 1939, parce que Glinda revient maintenant que la sorcière verte de l'Ouest est morte, et c'est de là qu'elle va raconter d'où tire l'origine de la méchanceté de la méchante reine de l'Ouest. Tant pourtant, elle va tenter de devenir amie avec Glinda. Parce que justement, on lui dit: mais tu n'étais pas amie avec Glinda, point d'interrogation. Et là, elle chante et elle dit oui. Fait que c'est, essentiellement, c'est ça. Il n'y a pas de numéro forcé dans cela. T'sais, souvent, dans ce genre de comédie musicale-là, il va se passer de mauvaises nouvelles puis ils vont tous se mettre à danser dans le cafétéria pour aucune raison. Là, les numéros étaient relativement tous bien placés. Il y a beaucoup de chansons, c'est sûr. Donc, sachez-le, amateur ou non de comédie musicale. Mais peut-être parce qu'on est moins lié culturellement au Magicien d'Oz, à Wicked dans ce cas-ci, mais tu sais, il n'y a pas vraiment de ces tunes-là personnellement qui me sont restées dans la tête en sortant de la salle de cinéma. Je sais que ça a une grosse culture queer aux États-Unis, que les drag queens ont déjà à faire des numéros dans les bars de ces chansons-là, s'il y en a qui ne portent plus à terre depuis deux semaines, mais tu sais, peut-être parce qu'on est moins, on a moins été bercé par Le Magicien d'Oz. J'ai l'impression qu'il y a il y a un gros impact culturel du Magicien d'Oz aux États-Unis, peut-être davantage que nous autres dans le Québec français. Là, je vois des grosses théories ce matin, mais cet après-midi, ce midi, allez-y à l'heure que vous voulez écouter cette émission-là, partout, soit à Québec, soit à Sherbrooke ou sur Spotify. Mais tu sais, tout ça pour dire que c'est pas si mauvais que ça. J'avais pas vraiment d'attente en allant le voir. C'est sûr que 2h40 pour une première partie, c'est extrêmement long. Il y a quelques trucs qui auraient... Ben, puis encore, tout est un peu justifiable, justifié, mais est-ce que ça valait 2h40 pour que la deuxième partie soit un autre 2h et quelques, si c'est pas plus, si c'est pas 3h? Parce que souvent, les deuxièmes parties sont même des fois plus longues que la première. Qu'est-ce qui a été enlevé à ce point-là pour justifier une deuxième partie? Parce que comme je l'ai dit, la manière que ça se termine, la manière qu'on donne les éléments finaux du costume de la méchante sorcière de l'Ouest pour qu'elle ressemble à la méchante sorcière de l'Ouest originale de 1939, t'sais, tous les éléments sont là. À la fin, son balai est là, le balai de la méchante sorcière est là, mais on continue quand même à dire « OK, ça prend vraiment une autre partie à ce film-là. Quelle sera cette autre partie-là? Je ne sais pas, mais ça va durer minimum 2h40 aussi. Fait que c'est ça, tu sais, c'est intéressant, c'est bien fait, c'est coloré, ça respecte la tradition de la comédie musicale. Puis il y a un caméo qui m'a fait rire, d'Indina Menzel, qui est la voix de la Reine des Neiges en version anglaise, que je pensais que c'était juste un clin d'œil de princesse, point, mais non. En fait, Indina Menzel est la méchante sorcière de l'Ouest de la pièce de Broadway. Donc, ils ont réussi à l'intégrer dans un numéro avec sa co-actrice Christine Chenoweth, qui, elle, jouait Glinda sur scène. Donc, les deux, on leur a trouvé un petit caméo et maintenant, je comprends le clin d'œil qui a été fait dans le film. Mais moi, dans ma tête, c'était vraiment parce que je la connaissais pour La Reine des Neiges. Il y en a qui la connaissent pour Rent, mais tu sais, La Reine des Neiges, c'est marquant. Fait que voilà, il y avait ce petit clin d'œil-là. Donc, tu sais, c'est bien pensé, c'est quand même bien fait, puis tout ça, ce film-là. Fait que, tu sais, ça, évidemment, c'est fait pour le grand écran, mais est-ce que ça justifie le 2h40 de tout ça? Évidemment que non. C'est beaucoup trop long pour ce que c'est, mais à voir la deuxième partie, ce sera à la hauteur. Présentement, fait un petit peu moins que Gladiateur au box-office, mais c'est vraiment deux publics complètement différents qui vont voir ces films-là. Contrairement à Barbie et Oppenheimer, que les utilisateurs des réseaux sociaux, que les gens se sont passé le mot pour faire une blague en disant qu'on va aller voir dans la même fin de semaine les deux films parce qu'ils sortent à la même date. Là, c'est du monde de marketing qui ont essayé de se faire accroire que Gladiator et Wicked, qui donnent Glickid pour faire un clin d'œil à Barbenheimer, que Glickid allait pogner et allait marcher. Évidemment que non. En ce moment, Gladiateur est à 1,7 million en Amérique, ou c'est juste au Québec. T'étais un box-office québécois, c'est ça. Gladiateur est à 1,7, Wicked est à 1,4. En Amérique du Nord, tu vois, Wicked est à 262 et Gladiateur est à 111. Fait que ce n'est pas du tout le même buzz qu'à Barbie et Oppenheimer. Barbie a pogné le milliard. Wicked, ça risque d'être tough. On s'arrête une dernière fois pour justement aller à Gladiateur sur les ondes de CFAQ 88.3. Le couleur qu'on vient d'entendre en musique avec Oiseau Sauvage. Dernière bande-annonce, Gladiateur 2, l'autre succès pas si mal au box-office présentement. Bande-annonce tout de suite.
Je me souviens de ce jour. Je ne l'oublierai jamais. Le jour où un esclave s'est vengé d'un empereur.
Où es-tu né?
J'en sais rien. N'ai connu ni mère ni père.
Je rends mon instrument.
Qui êtes-vous?
Tu entends cette foule? Le plus grand temple que Rome ait jamais bâti. Le Colisée. Parce que c'est ce en quoi il croit. Le pouvoir.
Tirez!
Général Acacius, de nombreuses victoires sont à venir.
Rome a de nombreux sujets. Elle doit les nourrir.
Qu'il mange de la guerre.
Visez cet homme, lui.
Je ne change pas les esclaves en gladiateurs, mais les gladiateurs en hommes libres.
Il y a quelque chose que j'ai vu en toi, depuis le début.
Vraiment?
La rage. La rage est le don que tu possèdes.
Nous le faisons pour notre survie à tous! Alors survivez! Quand il chargera, conduisons-le droit dans le mur!
Qui pourrais-je donc te livrer afin de satisfaire cette furie?
L'entièreté des légions romaines.
Seulement ça.
Alors je me contenterai du général.
Rome doit tomber. Il n'y a qu'à lui donner une poussée.
Cet anneau appartenait à Maximus. Aujourd'hui, il est à toi. À quoi bon rêver de Rome si son peuple n'est pas libre?
Esclave, et maintenant je vais contrôler un empire.
Ne sacrifiez pas une autre génération de jeunes hommes à leur vanité.
Force et honneur!
Force et honneur! Force et honneur!
Donc, si Star Wars 7 est une copie de Star Wars 4, ben Gladiateur 2, c'est une copie de Gladiateur 1, tout simplement. C'est là-dessus que ça se termine. Merci beaucoup. Non, c'est pas vrai. Petit-fils de l'empereur Marc Aurèle, Lucius a grandi en Numidie, où il a été envoyé pour sa sécurité par sa mère Lucilla à la suite de la mort de son père, un illustre gladiateur. Des années plus tard, c'est 16 ans, me semble, ou 23 ans. Quelque chose de même. Au cours d'une bataille apparemment âprement disputée qui coûte la vie à sa femme, sa ville est conquise par les soldats romains sous le commandement du général Marcus Acacius. Fait prisonnier, Lucius, dont personne ne connaît la véritable identité, est ramené à Rome. Ses aptitudes au combat, sa force et son ingéniosité impressionnante le mènent ou impressionnent plutôt les maîtres. Je recommence la phrase. Ses aptitudes au combat, sa force et son ingéniosité impressionnent le maître des gladiateurs, Macrinius, qui lui propose de lutter dans l'arène et lui fait miroiter du même coup la possibilité de prendre sa revanche sur Acacius. Donc, en plus que les noms sont mélangeants, ce film-là, ben, littéralement, il arrive à peu près les mêmes événements que dans le 1. Donc, pour vrai, si les gens ont vu le 1 en 2000, ils vont revoir à peu près la même chose en 2024, mais avec quelques acteurs plus jeunes qui vont reprendre essentiellement les mêmes codes. Est-ce que c'est un bon film? Ben, visuellement, c'est très bien. C'est sûr et certain. À part les singes 3D, ça, il y a beaucoup de monde qui ont ri des singes 3D très agressifs qui sont très, 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 très mal faits. Ils se veulent comme des espèces de babouins enragés, mais je vais reprendre l'expression que j'ai entendue. Ils ont l'air d'être des graphiques de PlayStation 2 dans un genre de Indiana Jones. Un peu oublié, jeu vidéo d'Indiana Jones un peu oublié. Fait que tu sais, à part ce bout-là, qui est complètement invraisemblable, le reste a l'air d'être réellement de vrais décors. Là, on a vraiment le souci du détail de faire des vrais décors. Quoi, c'est pas vrai. La bataille navale, c'est assez 50-50. Mais en même temps, tu peux pas faire 50 000 bateaux non plus. Bref. c'est pas un mauvais film, mais c'est sanglant. Il y a bien des fois qu'il y a des épées qui sont plantées puis que tu fais... C'était pas super agréable pour les yeux. Mais blague à part, 2h28, c'est moins long que Wicked, mais c'est correct. Tu sais, c'est pas à tout casser non plus. Tu sais, il y a des trucs, comme je le disais, qui sont extrêmement similaires. En fait, la trame de base entre les deux films est exactement la même. Et ironiquement, comme c'est la même actrice qui reprend son rôle de Lucilla, Connie Nielsen, ça fit avec le fait qu'on arrive presque 20 ans plus tard. Tout comme dans la vraie vie, presque 20 ans plus tard. Mais elle a à peu près le même rôle au sens où elle vient aider son ex-mari secret et son fils illégitime pour à peu près les mêmes raisons, dans les mêmes circonstances, dans un donjon gardé semi-secret parce qu'elle s'est éclipsée par la porte d'en arrière du palais de son mari. Donc, tu sais, il y a des trucs de même que tu peux pas inventer de refaire telle quelle la même chose. Et malheureusement, Gladiator 2 est tombé dans ce piège-là. Est-ce que ça valait la peine de faire un 2? Pas spécialement, mais tu sais... Ceux qui ont aimé tant que ça le 1 vont trouver leur compte, mais dans les faits, ça reste quand même tout simplement la même affaire. Et c'est là-dessus que ça se termine pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre deuxième service ici sur les ondes de CFA 88.3 et de Chiz 94.3. À la semaine prochaine. Salut!